Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le zapping RMC, on commence par les grandes gueules depuis les élections législatives. Plusieurs anciens membres du gouvernement, tiens, ont retrouvé des postes grâce à un coup de pouce de l'Élysée. C'est le cas de l'ancienne ministre du Logement, Emmanuel Wargon, nommé hier à la tête de la commission de régulation de l'énergie. Décision inadmissible pour Barbara Lefèvre.
Madame Wargon, a-t-elle véritablement les compétences pour occuper ce poste? Y a-t-il eu une mise en concurrence des différentes candidatures? Parce qu'il y a peut-être des gens plus compétents qu'elle. Là, elle est recasée, par le fait du prince, puisqu'il y a eu un vote réglementaire à l'Assemblée. Les parlementaires qui ont quand même été consultés ont dit non, on ne souhaite pas que Madame Wargon ait ce poste. Et Monsieur Macron s'est assis sur la représentation nationale. Qu'elle ait été recasée dans une la haute fonction publique auquel elle avait droit, très bien. Mais là, elle a pas été, elle s'est pas recasée naturellement dans la haute fonction publique comme Monsieur Blanquer. Monsieur Blanquer, il a été recteur, il a été ci, il a été ça. Il pouvait très bien se trouver un poste tout seul. Non, on crée un poste pour lui. Madame Wargon, on la place. C'est Monsieur Macron qui la place. Donc, excuse-moi. Ça, c'est inadmissible.
Bon, Thierry Moreau, c'est pas nouveau, hein. Tous l'ont fait. Maintenant, le monde d'après que nous promettait Emmanuel Macron, on repassera.
À chaque changement de gouvernement, il y a tout un grand mouvement de recasage pour replacer les membres de cabinet ministériel qui retournent souvent à leur corps d'origine. Parce que tout ça, c'est de la haute fonction publique. Hein. Quand on fait partie d'un grand corps d'État, on y retourne après sa carrière politique ou son passage en cabinet ministériel. Et alors, évidemment, pour les plus emblématiques, c'est-à-dire les ministres, c'est très visible, forcément, parce que ça se voit. Il pourrait retourner à la vie civile, au travail, plutôt qu'être recasé à la tête d'une administration ou d'une commission ou d'une structure d'État. Ce serait peut-être pas plus mal pour qu'il comprenne un petit peu la vraie vie. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé, qui, hélas, va exister encore longtemps et qui est de moins en moins compris par les Français, parce qu'on se dit que finalement ces gens-là, quoi qu'il leur arrive, ils auront toujours une sorte de filet de sécurité, comme le trapéziste quand il rate son saut, il arrive sur un filet. Voilà,
il
c'est
était
un petit peu ça.
Passionnant Emmanuel. Ce débat des grandes gueules ce matin. J'ai bu chaque parole qui ont été dites par rapport à ce débat, sachant que effectivement, ça a toujours existé. Avant, on nommait les gens ambassadeurs. Tu sais, on les nommait ambassadeurs dans des endroits incroyables, ambassadeurs aux Indes ou que sais-je. Donc ça a toujours existé, mais il y a un mot très fort qu'elle a dit, Barbara, c'est le fait du prince, parce qu'initialement elle n'aurait pas dû avoir le droit. Il y a eu un vote chez les députés, je crois, qui ont dit non, et Emmanuel
on est
Macron,
passé outre.
La place, c'est le fait du prince, alors que c'est des gens qui ont des réseaux que vous et moi on n'a pas, qui ont un carnet d'adresses que personne n'a, qui pourraient se replacer peut-être tout seuls, comme des grands, j'ai envie de dire, mais c'est toujours pareil, hein, les riches aident les riches et ça changera jamais. Ça ne changera pas.
Apolline Matin, les antivax vont-ils trop loin? Est-ce qu'on doit poser la question? En tout cas, depuis quelques jours, des affiches sont apparues sur les panneaux publicitaires de la ville de Toulouse, créés par un collectif antivax. Ces publicités donc, portent notamment le message suivant. Alors, c'est sur des 4x3. Hein. Un accident cardiovasculaire, toutes les 100 injections, la santé de nos enfants vaut mieux que des vaccins expérimentaux. Un message dangereux et faux, d'après le docteur Jean-Christophe Calmes.
C'est risible, c'est tellement risible que je sais même pas si c'est la peine d'en parler. Déjà parlons de la forme de l'affiche. Un accident vasculaire toutes les 100 vaccinations. En France, on est à 148 millions de doses. Ça veut dire qu'il y a eu en France 1 500 000 accidents vasculaires. Vous en avez entendu parler, vous, dans la presse?
Moi, j'ai rien
entendu parler là-dessus. Mais il est pas faux, il est archi faux. Il est totalement sorti de l'imaginaire de quelques personnes délirantes. On est en France. La France, c'est un état de droit où on a le droit de dire n'importe n'importe quoi, n'importe où. Donc c'est ce qui est fait. Et le propre de ces sociétés sectaires, c'est justement de surfer à la limite de la légalité pour pouvoir diffuser des messages totalement faux auxquels des gens crédules vont adhérer. Donc ils sont très forts là-dedans. Ils ont choisi leur terrain de jeu pour ça, c'est-à-dire la publicité sur des terrains privés. Et effectivement, la loi est un petit peu impuissante là-dessus.
Je suis en train de surveiller nos réseaux sociaux d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'ils vont pas tarder à réagir. Non mais c'est vrai. Thierry, alors la mairie de Toulouse se défend en disant, bah oui, leur problème c'est que c'est un 4x3 qui est sur un terrain privé. Donc
il y en a 10 hein, quand même.
Ouais ouais, mais là mais c'est ce que dit la mairie de Toulouse, que c'est compliqué, que ça provoque pas vraiment de désordre, enfin bref.
Alors s'il y a un argument, c'est le trouble à l'ordre public qui peut permettre effectivement d'intervenir, et je pense qu'il devrait intervenir. Il faut bien comprendre que dans cette histoire de vaccin, la désinformation a fait énormément de mal, parce qu'on a cru comprendre à un moment qu'il y avait la moitié du corps médical qui était pour les vaccins, l'autre moitié qui était contre les vaccins. En fait non, 99,9% des médecins du corps médical et de tout le personnel soignant est évidemment pro-vaccin, et l'infime minorité qui a eu une caisse de résonance absolument incroyable a eu droit à cette parole surdimensionnée. Et là ils utilisent effectivement ces arguments des 4x3. Moi je m'appuierais sur le trouble à l'ordre public pour empêcher ces affiches. Moi ça m'énerve quand certaines sociétés d'affichage dans le métro ont empêché des affiches de films sous prétexte qu'à une époque elles étaient blasphématoires, et là sur un réseau d'affichage certes sur des terrains privés, on n'arrive pas à faire intervenir le trouble à l'ordre public pour empêcher qu'elles existent. Il faut les détruire, les empêcher.
Et en plus, je ne sais pas si tu as bien regardé ces affiches, mais j'imagine que oui. Donc il y a une espèce de grosse seringue avec paroles qu'on a dit, et c'est signé du Conseil scientifique indépendant, avec que des professeurs dedans qui ont été polémiques pendant toute la période Covid
et qui sont ultra minoritaires.
Et là, ça leur donne une visibilité. C'est lamentable, lamentable.
La règle, c'est qui parle, d'où ils parlent. Ouais. Ça, c'est une règle dans le journalisme et dans l'information.
D'où ils sortent leurs chiffres aussi, parce que franchement,
mais ce sont des faux chiffres.
Voilà.
Les grandes gueules, faut-il une compensation financière pour les voisins d'éoliennes? Le gouvernement envisagerait une ristourne sur la facture d'électricité des habitants qui accepteraient l'installation d'éoliennes à côté de chez eux. Voilà, une mauvaise idée pour l'ex-enseignante Barbara Lefebvre.
C'est complètement ridicule de dire des compensations financières pour les voisins d'éoliennes. Parce que de toute façon, c'est des parcs d'éoliennes. Mmh. Et les parcs éoliens, ils sont dealés entre les sociétés privées et les municipalités et les
paysans qui prennent l'argent.
Certains, mais aussi
pas
avec
certains,
les
communautés. Non, mais il n'y aurait pas les taxes pro sur le lien, t'en aurais nulle part. Hein.
Et avec les communautés d'agglomération.
C'est pour toucher de la
Donc,
thune.
Le gouvernement ici montre bien qu'il n'a pas de réelle politique de transition énergétique, qu'il est, comme d'habitude, dans un espèce de chantage à la subvention.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que si jamais c'était vrai, cette histoire, et si jamais, ça veut dire que le gouvernement reconnaît qu'habiter à côté d'une éolienne, c'est vraiment une nuisance.
Effectivement, parce que si c'était un truc aussi vertueux que ça, il n'y aurait pas besoin de réduire l'électricité quand on est dans le voisinage. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais cela dit, tout ce que dit Barbara est vrai. Mais en l'occurrence, moi j'ai des éoliennes pas très loin de chez moi, en l'occurrence, pas assez proches pour qu'elles me gênent. Pas beaucoup. Je crois qu'elles sont six.
D'un côté du village.
Non, c'est pas dans le village, c'est un peu plus loin sur l'autoroute.
Non, mais tu les aperçois.
Je les aperçois pas. Mais si je les apercevais, parce qu'on a réussi à détruire un projet, alors que pour le coup, qui était en plein dans ma vue, dans la vallée, et si ça avait été fait, et si on n'avait pas réussi à détruire le projet, quitte à avoir des nuisances et à baisser le prix de ma maison dans l'immobilier, autant avoir quelques compensations, quoi.
Ah, bah là, c'est vrai. Si ça gâche ta vue et si ça baisse le prix de ta maison, c'est électricité gratuite à vie.
Je me mets à la place des gens, autant que la
solution, c'est moins d'éoliennes.
C'est effectivement, en tout cas, dans la proposition de loi d'Elisabeth Borne. Cette ristourne, c'est dans la proposition de loi, donc ça sera étudié.
Ah, je comprends pas.
C'est par rapport à la
position visuelle. J'ai compris, mais ça veut bien dire encore une fois que c'est reconnaître implicitement qu'avoir une éolienne à côté de chez soi, c'est une nuisance.
C'est pas implicite, là, c'est explicite.
Ça fait du bruit, une éolienne, c'est très bon pour les je suis pas juriste, mais c'est très bon pour les associations qui militent contre l'implantation d'éoliennes, parce que ça veut dire l'État lui-même reconnaît que c'est une nuisance. Nous on n'en veut pas, on peut pas nous obliger, enfin je sais pas, mais en tout cas ça donne des arguments.
On a une idée du montant ou pas? du tarif de
non, pour l'instant, c'est juste l'idée de réduire, c'est il y a pas de
montant précis. Sur 100 euros, on va te faire une ristourne de 3 euros peut-être.
Génial.
Allez, Apolline Matin, faut-il proposer des stages de moto aux jeunes? Cette initiative existe déjà dans la ville de Vaux-en-Velin, près de Lyon, où une association se charge de former les jeunes à la conduite moto. On parle évidemment notamment du phénomène des rodéos sauvages, hein. Mais pour Nathan, habitant du Gard qui témoignait ce matin, il faudrait déjà que la loi soit appliquée.
Je ne comprends pas pourquoi on est là à essayer de chercher des solutions, puisqu'il y a déjà des solutions qui existent, ça s'appelle la loi. Tout simplement, c'est interdit. Quand on parle d'en plus de gamins de 13 ans, alors qu'il faut au minimum 14 ans pour conduire un deux roues, et un cross, en sachant qu'un cross, il est pas, on ne peut pas l'assurer sur route ouverte.
Parce que c'est vous dites qu'il y a une solution, c'est la loi, ça veut dire faire appliquer la loi. Est-ce qu'on l'a fait appliquer?
Non, j'ai pas l'impression, parce que le problème, c'est que maintenant, si on dit quelque chose, on m'a montré la police du doigt, ou puis qu'il y a un accident pendant une poursuite, ça va être la faute des policiers parce qu'ils ont stressé la personne ou ils l'ont fait fuir. Enfin, Je sais pas, moi, quand j'étais gamin, on avait les mobilettes, si on n'avait pas le casque, on se prenait une amende, on se faisait arrêter, et puis voilà, quoi.
Hier, Fatima Benomar, qui était avec nous dans Estelle Midi, d'ailleurs, défendait cette idée. Hein. Elle disait qu'il faut arrêter de stigmatiser aussi ces jeunes qui font des rodéos, s'ils le font, c'est parce que c'est une passion que la conduite d'un deux roues, et que justement, il faudrait les aider à se former, à avoir des circuits pour se défouler et pour assouvir leur passion, Thierry.
Alors, il y a deux choses dans ce qui a été dit par l'auditeur. Il y a effectivement à Vaux-en-Velin des associations qui envoient les gens qui veulent absolument faire du motocross sur des circuits en leur apprenant à mettre deux casques et des jambières. Ça ne règle pas le problème des rodéos, très clairement. Ça n'en règle pas. Mmh. Ça fait baisser un petit peu le nombre de rodéos, mais ça ne règle pas le problème. En revanche, on assiste le problème à une impuissance. Comme le disait l'auditeur, des gamins de 13 ans, on assiste maintenant à des véhicules qui ne sont pas immatriculés, donc pas repérables. J'ai vu ce matin sur BFM un reportage qui montrait que maintenant, il y avait des rodéos en voiture avec des voitures immatriculées en Pologne, louées en Pologne avec des sociétés fictives pour qu'on ne retrouve pas les conducteurs. Donc, il faut sévir. Alors, sévir, c'est pas tamponner. On a déjà eu ce débat hier.
C'est-à-dire, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la possibilité notamment qui est accordée en Grande-Bretagne aux policiers, alors dans des conditions très particulières, ils sont fermés pour, etc., à une certaine vitesse, sous un certain angle, ils peuvent frotter, taponner, tamponner un petit peu le véhicule du fuyard, et pour le déséquilibrer, le faire tomber.
Ouais. Juridiquement, c'est très complexe. Ce qu'il faut, c'est nasser au moment où il y a le rodéo toutes les sorties possibles.
Ah bah alors tu vas dans certains quartiers, non mais tu sais, dans certains quartiers c'est impossible.
Confisquer et détruire. C'est la seule façon, parce que quand le type il aura acheté 1, 2, 3, 4, 5 motos et qu'à chaque fois elles sont détruites, il finira par réfléchir.
C'est sûr qu'il les achète. Il y a certains qui assouvissent une passion et qui le font légalement, mais bon, c'est légalement.
Moi, je me souviens quand j'étais gamin, si mon pot d'échappement faisait du bruit et qu'il avait été décalaminé, ben j'avais une amende.
T'as fait ça, toi? Voyou.
Tiens, on va tout savoir. moi, j'ai de la famille qui habite à Vaux-en-Velin. C'est un endroit où j'ai pu passer quelques jours d'affilée. C'est une vraie plaie, quand même, cette histoire-là, notamment des rodéos et des. En plus, ils habitent sur une longue avenue, et où tu entends passer en permanence, et c'est de la nuisance sonore, et c'est stressant, et tout ce que tu veux. Moi, j'ai juste l'impression qu'on allume une espèce de contre-feu, qu'on essaye de contenir, comme on n'a pas réussi à le faire à la source, on essaye de le faire un petit peu au bout, de contenir un petit peu le truc. Alors, j'entends que Fatima dit qu'il ne faut pas les stigmatiser, etc., etc. C'est bien gentil, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas réussi à encadrer le truc au début, on essaie de l'encadrer à la fin. Est-ce que ça marche vraiment? Sans doute qu'il faut le faire, mais je suis très sceptique sur les résultats de l'opération. Quoi.
Les grandes gueules, faut-il un ambassadeur pour représenter les Français LGBT+ ? C'est ce qu'a annoncé ce matin la Première Ministre Elisabeth Borne pour protéger les droits des personnes homosexuelles françaises au-delà de nos frontières. Poste inutile, selon le fromager des GG, Johnny Blanc.
Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est quand même cette espèce de façon, tout de suite, son premier mot, ça a été dire porter ce message hors de nos frontières. Là encore, nous, Français, on va se poser en donneur de leçons et on va aller vouloir appliquer quelque chose hors de notre territoire.
C'est pas donner une leçon, c'est porter des valeurs de tolérance. Ça veut pas dire faire la leçon.
Alors, occupons-nous de ce qui se passe chez nous avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gamins, je vais dire, et des gamines homosexuelles en France qui vivent des situations très compliquées, qu'on débloque de l'argent pour construire des centres, effectivement, pour les aider et les accueillir, très bien. Qu'on commence tendance à dire on va nommer un ambassadeur qui va aller à Tataouine, à trifouiller les oies pour voir ce qui s'y passe. Moi, je suis désolé, j'en ai marre qu'on arrête pas de créer des trucs comme ça qui vont encore nous coûter de l'argent pour strictement rien, parce que cet ambassadeur, forcément, il faudra qu'il soit payé. Il y a un moment, ça me fatigue.
Emmanuel, un ambassadeur pour les Français LGBT+ qui vivent à l'étranger.
Ouais, alors je me dis à la base c'est peut-être pas une mauvaise idée. Après j'ai bien peur que tout cela ne soit que cosmétique, ne soit qu'une opération de communication pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, marquer son ouverture vers ces populations-là, etc., etc. D'ailleurs on sait même pas qui c'est en plus cette personne.
Bah, puis moi je me pose une question nommée. Quand tu es français LGBT+ qui vit à l'étranger, t'as déjà un ambassadeur qui est chargé de te protéger, quelle que soit ton orientation sexuelle ou pas, non ?
Ouais, je sais pas. C'est des postes. Il y en a un autre aussi qui me pose une question, mais depuis longtemps, c'est l'ambassadeur des pôles. En l'occurrence, c'est Olivier Provost-Harvor. Je me demande à quoi il sert. J'essaie de trouver des voilà, quel est l'emploi du temps de l'ambassadeur des pôles, peu importe qui c'est.
C'était Ségolène Royal, fut un temps.
Oui, c'était Michel Rocard à un moment. Oui. Et il a beaucoup fait sur la sensibilisation justement du problème climatique au niveau des pôles à l'époque où il y était, parce que c'était un vrai bosseur.
Olivier Provost-Harvor, il est censé écrire une stratégie nationale polaire.
Après, t'en entends parler, toi ? C'est un peu parti en cacahuète.
Ouais, c'est des postes un peu, j'ai l'impression.
Des fromages de la République, on appelle ça.
Les comment ?
Des fromages de la République.
Ah bon ?
Voilà. C'est joli.
Et ben ça sent pas bon.
Thierry, non mais alors, c'est une bonne idée ou pas ?
Ben non, c'est pas une bonne idée parce que ça aussi c'est un truc de communication.
On est d'accord.
J'aimerais bien savoir si l'ambassadeur LGBT machin va aller à la Coupe du Monde au Qatar pour promouvoir l'homosexualité.
Ah, là, ça devient intéressant.
Au Qatar. Est-ce qu'il va faire partie de la délégation ?
Là, parce ça devient politique.
Je veux bien qu'on nomme un ambassadeur, mais si l'ambassadeur il est dans son bureau à Paris et qu'il se contente de faire des communiqués et qu'au moment où il faut aller sur place, c'est-à-dire faire du commerce avec le Qatar, faire du commerce avec l'Arabie Saoudite, faire du commerce avec les Émirats Arabes Unis, on parle des droits de l'homme et donc des droits LGBT, qu'est-ce qu'il va faire l'ambassadeur ? Il va rester chez lui. Alors évidemment, c'est de la com.
Faire des congrès, des colloques.
Bon, dans un instant, tout l'été, ce sera RMC s'engage pour vous, hein, parce que tout l'été, nous continuons de s'engager pour vous. Jonas Chabas revient sur les dossiers les plus marquants de la saison. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.